Philosophie éthique, Père Philippe, 10 novembre 1983 à Saint-Joseph.
Alors, on me pose cette question, vous avez toujours le droit d'en poser, il ne faut pas hésiter d'en poser. Si elles sont trop longues, on laissera tomber. Pouvez-vous préciser quel lien, quelle différence y a-t-il entre Eros et amour velléitaire? Alors, Eros de Platon, je présume. Parce que on viendra là-dessus. Peut-on dire que Eros et amour velléitaire ont de commun le fait que ça reste dans le même? En effet, dans le même sujet, immanent, on dirait. En effet, si le premier amour est un amour qui me fait toucher l'autre, qui me porte vers l'autre, s'il n'est pas confirmé par l'intention de vie, ce caractère de l'autre ne disparaît-il pas à cause de l'imaginaire? Oui, il disparaît à cause de l'imaginaire. À ce moment-là, peut-on dire que ce premier amour a éveillé ce désir violent qu'est l'éros? Avant qu'il n'a pas pu réaliser son dépassement. Et c'est pour cela que l'amour velléitaire est si fort et si séduisant, car il y a comme une exaltation du sujet. C'est vrai, c'est juste. C'est juste les deux. Vous voyez, je reprends pour que tout le monde voit bien. Eros, c'est, vous voyez bien, le panqué. Il ne faut pas oublier la source. La source. La source de Eros, c'est toujours. Dès qu'on parle de Eros, il faut penser au banquet. Platon. Alors, évidemment, ce que dit Platon sur Eros, il le met sur l'amour-désir. Je peux essayer de comprendre, c'est-à-dire assumer ce qu'il y a de vrai dans Eros de Platon. C'est-à-dire de comprendre l'amour, l'appétit naturel. Je crois que Eros, c'est l'appétit naturel. C'est l'appétit naturel. L'appétit naturel, vous comprenez, il est au niveau de l'instinct. Il est au niveau sensible. Il est au niveau spirituel. Le fond, Eros implique les trois. Donc, c'est le propre de Platon. Platon n'analyse pas. Il décrit admirablement, poétiquement et d'une façon étonnante. C'est un grand artiste, Platon. C'est un artiste merveilleux. Mais il n'analyse pas. Alors, Eros, pour lui, c'est le désir. C'est pour ça qu'il dit c'est l'appétit. C'est l'appétit naturel, dans ce qu'il a de plus foncier. L'appétit naturel est au niveau spirituel, parce que j'ai un appétit naturel spirituel, ça c'est bien évident, heureusement. J'ai un appétit naturel au niveau sensible, appétit naturel au niveau sensible, je suis porté vers ce qui m'attrait au niveau sensible. L'appétit naturel et spirituel porte sur le bien spirituel. Le bien spirituel, c'est la personne. L'appétit sensible porte sur le bien sensible. Et l'appétit instinctif, il porte aussi sur le bien sensible. C'est sûr, l'appétit instinctif. Mais il y a quelque chose de plus fondamental dans l'appétit instinctif. Quelque chose de déterminé à nous, tandis que l'appétit sensible pourra, lui, s'expliciter vers quelque chose de différent. Dès que vous avez l'appétit sensible, vous avez tout de suite le concupiscible et les racines. Voilà vos différents appétits sensibles. Nous verrons tout ça en philosophie du vivant. Hein. Mais ici, je le rappelle simplement, parce qu'il y a une question qu'on pose. C'est là où on voit les liens entre la philosophie du vivant et l'éthique. Alors, vous avez ces trois appétits naturels. Bien, Eros chez Platon implique tout ça. possible de comprendre les roses de Platon sans la lettre. De temps en temps, c'est très spirituel. De temps en temps, c'est moins spirituel chez Platon. C'est très bien. N'est-ce pas ? Eros commence par l'appétit des beaux corps. C'est l'instinct, c'est évident. Et après, c'est l'appétit, Eros porte sur les belles occupations, c'est l'appétit sensible. Et puis Eros porte sur la beauté. Tout ça est impliqué dans Eros. Eros de Platon implique les trois. Dans le banquet de Platon, pas de distinction. Alors, ce sera ensuite. Aristote ne distingue pas, ce sera saint Thomas. Saint Thomas parle d'appétit naturel, vous voyez. Il faut attendre longtemps avant d'avoir une distinction par rapport à l'érose de Platon. Il faut attendre saint Thomas. C'est impliqué dans Aristote, mais ce n'est pas explicité. C'est très curieux. C'est saint Thomas qui, vraiment, c'est dans l'ordre de l'amour où saint Thomas est le plus original. C'est dans l'ordre de l'amour, c'est dans l'ordre du bien et de l'amour. Saint Thomas apporte vraiment des tas de précisions par rapport à Aristote. Donc, on a ces différents appétits. Alors, moi je parlais, comprenez bien, du premier amour spirituel. Ce premier amour spirituel est bien un appétit naturel spirituel qui se porte sur le bien spirituel de la personne. Et je vous disais que cet appétit spirituel impliquait les autres. Mais ce n'était pas cela que je regardais. Mais ça implique les autres. Je ne peux pas séparer un amour d'un autre. Quand vous aimez, c'est tout vous-même qui aimez. Ça veut bien, si vous voulez arriver à un amour spirituel tellement pur, en disant, moi je ne veux que l'amour spirituel dans toute sa pureté, alors vous tuez l'amour. Il peut y avoir une recherche de pureté de l'amour telle qui tue l'amour. Vous savez bien l'histoire de Brémond, hein, qui est tellement jolie. Il ne faut jamais oublier ça. Brémond, qui est l'histoire de la spiritualité, quand on parle de l'amour qui se veut tout à fait pur, cette personne qui veut une pureté absolue dans son amour, que vraiment, on aime d'une manière tellement pure que quand c'est plus d'amour, c'est on aime. C'est tellement pur. Parce que quand j'aime, c'est moi quand même. Hein. Alors Brémond donne ce petit chose merveilleux, cette personne qui voulait un amour tellement pur et qui offre les cloches au curé de sa paroisse. Il dit, surtout, monsieur le curé, ne dites pas au sermon qui vous a donné ces cloches, parce que je veux donner ça vraiment uniquement pour Dieu. C'est uniquement pour Dieu, c'est un don d'une gratuité absolue. Mais monsieur le curé, vous feriez un très grand plaisir si vous pouviez mettre mon nom dedans. Que chaque fois que la cloche sonne, ça tape sur mon nom. Vous voyez, c'est merveilleux. Ça. Alors, on voit très très bien, vous voulez un amour tellement pur, ce qui fait l'ange fait la bête. Vous voyez, c'est le vieil adage. C'est vrai que l'amour, quand je parle d'un amour spirituel pur, c'est que la note spirituelle domine. Mais la note spirituelle implique un amour sensible et instinctif. On ne peut pas être autrement. Je suis un quand j'aime. C'est la très grande différence avec la connaissance. La connaissance implique un mode abstrait, pas l'amour. Et c'est pour ça que le platonisme est plus vrai du côté de l'amour que du côté de la connaissance. Mais il n'est pas entièrement vrai non plus. Parce que justement, il est plus vrai parce qu'il implique bien les trois. Et c'est vrai qu'il implique les trois. Tandis que du côté de la connaissance, il rejette la connaissance sensible. Mais là, il implique les trois. Alors, cet amour spirituel, c'est bien Eros. Je pourrais dire ça. J'aime mieux dire amour spirituel que Eros, parce que Eros, c'est plus confondu, mais c'est un amour spirituel qui porte sur le bien spirituel de la personne. Cet amour spirituel demande de se transformer en intention de vie. C'est quelque chose de très important. La première éducation, l'éducation fondamentale, c'est d'arriver à comprendre que tout amour spirituel doit se changer en une intention de vie. Et pour que ça se change en une intention de vie, il y a un apport de l'intelligence. Puisque l'intention de vie implique un ordre vers la fin. Donc, il y a un apport de l'intelligence. L'intelligence ne s'oppose pas à l'amour. Hein. La raison raisonnante s'oppose à l'amour, mais l'intelligence ne s'oppose pas à l'amour. Plus votre intelligence s'affine, plus vous êtes capable d'aimer. Plus votre intelligence s'affine, plus vous êtes capable d'aimer. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre d'opposition entre saint Thomas et saint Bonaventure. Si on comprend bien saint Thomas, on est conduit à un primat de l'amour que saint Thomas lui-même reconnaît et que saint Bonaventure ne cesse de répéter. Tandis que si je regarde la scolastique décadente et quand l'intelligence se ramène à la raison, comme chez Leibniz, il y a une opposition entre Leibniz et saint Bonaventure. Lisez du Leibniz et après du saint Bonaventure, vous ne vous trouverez pas tout à fait dans le même climat. Parce que Leibniz, lui, exalte le point de vue de la raison, tandis que saint Thomas, saint Bonaventure, exalte le point de vue de l'amour. La raison ne sert à rien pour aimer. Mais l'intelligence, oui. Plus je suis intellectuel, bon sens d'être intellectuel, plus je suis capable d'aimer. C'est pour ça que l'intelligence et exercer la philosophie, ce n'est pas la raison, c'est l'intelligence. Si on faisait de la logique pendant trop longtemps, alors il y aurait des chances que la logique nous empêche de contempler. C'est pour ça que Humbert de Roman dit que les novices ne fassent pas trop de logique, parce qu'à ce moment-là, ils perdront la capacité d'aimer. C'est très joli, et il a raison de dire ça, que les novices ne fassent pas trop de logique, mais exercer leur intelligence, oh oui, un novice intelligent fait des progrès beaucoup plus grands qu'un novice qui se veut bête. Vous voyez, là, à ce moment-là, il fait beaucoup moins de progrès. Tandis qu'un novice qui se veut intelligent, qui essaie de mettre son intelligence au service de son amour, fait des progrès bien plus grands. Bien plus grands. Parce que l'intelligence permet à l'amour de s'éveiller. Bien, de fait, il y a ce passage très important de l'amour spirituel à l'intention de vie qui se fait par l'intelligence. Si l'intelligence ne fait pas ça, il y a un vide. Et c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire, alors, va corrompre cet amour spirituel en velléité. C'est pour ça que la note ici est tout à fait juste, en disant que l'imaginaire empêche de toucher le réel, la personne aimée, le bien spirituel. Il me replie sur moi-même, le sujet. Et l'amour spirituel se repliant sur lui-même, et n'ayant plus le réalisme de toucher le bien, je suis en présence d'une velléité. Vous voyez, au fond, c'est, si je parle en termes freudiens, c'est le premier moment où il y a un repliement sur l'amour, et par le fait même, je suis en face d'un inconscient qui se crée. Il y a un empêchement, quelque chose qui arrête. Mais le premier transfert, il est intérieur. C'est l'imaginaire qui remplace l'intelligence. Et celui-là est beaucoup plus subtil. Alors, il faut être beaucoup plus subtil que Freud pour le dire. Il faut aller beaucoup plus loin. Freud n'a pas saisi ça. Il a vu les gros transferts extérieurs. Il y a un transfert beaucoup plus profond, beaucoup plus radical. C'est celui de l'imaginaire qui remplace l'intelligence. Alors, à ce moment-là, je suis en face, évidemment, d'un repliement sur moi-même. Et ce repliement sur moi-même va corrompre l'amour spirituel, qui va perdre son réalisme, et je serai en présence d'une velléité. Et on peut dire que la velléité, c'est un amour spirituel qui n'atteint plus son but. Et alors, parce qu'il n'atteint plus son but, il y a ce repliement qui fait qu'à partir de là, il y aura un inconscient terrible qui va surgir. Et ça explique la violence que peut avoir certaines velléités. Bon, je n'insiste pas plus là-dessus, mais c'est bien, parce que je crois que c'est tout à fait juste. Eros et cet amour imaginaire qui fait la velléité. Je reviens un instant sur ce que je disais. On m'a demandé d'y revenir un instant. Et on a eu raison, c'est juste. Avant de voir ce que c'est que la vertu, je vais préciser avec vous, on n'a pas fait l'année dernière, parce qu'on n'a pas eu le temps, et ça intéressera tout le monde. Je vous ai dit que la liberté naît à ce moment-ci, premier moment de la liberté. L'intention de vie est libre. Ce premier amour spirituel n'est pas libre, il est naturel. Tandis que l'intention de vie est libre. Il y a ensuite le choix qui est libre. Et il y a ensuite l'imperium qui est libre. Alors vous voyez, qui est très intéressant à voir, c'est ces trois modalités de l'acte libre. Et ces trois modalités de l'acte libre nous mettent en présence du problème de la liberté. Prenez bien. La liberté, c'est une abstraction. Vous n'avez jamais vu la liberté, sauf la statue de la liberté. Vous allez à New York, hein, vous avez la statue de la liberté. Il y a la statue de la liberté. Ça, on peut très bien symboliser la liberté. Alors, la statue de la liberté. Mais la statue de la liberté, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est ce par quoi un acte est libre. Blanc, blancheur. Hein, n'oubliez jamais ça, cette petite hygiène de l'intelligence qui est capitale. C'est facile de distinguer blanc et blancheur. Regardez dans Larousse. Vous verrez que Larousse a oublié ce que c'est que le concret. Ce qu'il ne dit pas, il devrait dire que c'est intelligent. Et abstrait. Blancheur, c'est l'abstrait du blanc. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? C'est ce par quoi le blanc est blanc. Très très bien défini la blancheur. Ce par quoi le blanc est blanc. Qu'est-ce que c'est que le blanc? Ah, vous n'allez pas dire. Le blanc, c'est ce que j'expérimente quand je vois un mur blanc. Grâce à la lumière, la blancheur. Quelle différence y a-t-il entre la blancheur et le rouge? Alors, le physicien donnera la définition de la décomposition. Très bien, ça n'apprendra pas du tout ce que c'est. Avec toute la vénération que je vois à la physique, ça n'apprendra pas du tout ce que c'est. J'expérimente le blanc. J'expérimente le rouge. J'expérimente le violet. Connaissent cela, ce sont des qualités différentes. Je sais très bien qu'on peut très bien voir les rapports entre les deux, très bien. À ce moment-là, je ferai les rapports entre les deux. Mais j'ai l'expérience du mur blanc. J'ai l'expérience d'un visage blanc. J'ai l'expérience, et ainsi de suite. J'ai l'expérience d'un drap blanc. J'ai l'expérience. Vous voyez, quand on veut prendre un produit de lessive merveilleux, n'est-ce pas? Et on dit, voyez, ça c'est. Alors on vous montre la blancheur du tissu qui sort de là. Ah, très très bien, ça fait partie des propagandes, c'est toujours faux, mais c'est quelque chose qui fait comprendre la blancheur. Eh bien, c'est la même chose pour libre et liberté. J'ai jamais rencontré la liberté. Comme je n'ai jamais rencontré la blancheur. C'est mon intelligence qui donne à la qualité blanc cette espèce d'absolu de la blancheur. Je n'ai pas l'expérience de la blancheur, j'ai l'expérience du blanc. Je n'ai pas l'expérience de la liberté, j'ai l'expérience de l'acte libre. Quand il s'agit de la blancheur, il n'y a pas grande difficulté parce que vous n'avez aucune philosophie de la blancheur. Mais quand il s'agit de la liberté, c'est très gênant parce que vous avez des philosophies sur la liberté. Ils n'ont jamais réfléchi, ça me semble vraiment très curieux, ils n'ont jamais réfléchi qu'ils n'avaient aucune expérience de la liberté. Et ils font toute une philosophie sur la liberté. La liberté, ça n'existe pas. Donc en philosophie réaliste, c'est très simple. Ça n'existe pas, la liberté. Il existe des actes libres. C'est tout à fait autre chose. Et on dirait beaucoup moins de bêtises sur la liberté si on venait à l'acte libre. Parce que je peux spéculer 107 ans, je parlerai d'une liberté ontologique. Ça se dit. Et tout le monde prend ça très au sérieux. Ça n'existe pas, une liberté ontologique. Jamais vu une liberté ontologique. Je ne sais pas si vous en avez rencontré une. C'est un spectre particulier qu'on rencontre à minuit ou à 1h du matin. On rencontre un spectre, la liberté. J'ai jamais rencontré la liberté. Vous n'avez pas l'expérience de la liberté. Vous avez l'expérience d'un acte libre. Ce n'est pas du tout la même chose, voyez. Parce que la liberté, c'est ce par quoi un acte est libre. Ce par quoi vous formalisez. Qu'est-ce que c'est que l'abstrait? C'est une capacité de mon intelligence de formaliser. C'est une maladie de l'intelligence, quelquefois. C'est une maladie de l'intelligence de formaliser. Elle a besoin de formaliser. Elle donne comme ça à une forme, une espèce de caractère d'absolu. On formalise. Et c'est très très joli ça, c'est très très joli. On a besoin de ça parce qu'on a besoin de pureté. On a besoin de saisir la forme à l'état pur. Tandis que quand vous saisissez le blanc du mur, le blanc n'est jamais pur. Parce que le blanc du mur n'est pas le même que le blanc du persil. C'est pas le même, c'est bien évident. C'est tout à fait différent. Alors, le blanc du mur est toujours impur. Il est toujours, mêlé avec ocre, avec quelque chose d'autre, ou avec différent. C'est pas la même chose du tout. Il n'existe pas le blanc pur. Le blanc du mur, le blanc du visage. Le blanc du linge, le blanc du nuage. Et là, vous expérimentez quelque chose. De sorte que faisons attention, ne passons pas trop vite à la blancheur. Parce qu'une fois que vous êtes en face de la blancheur, vous formalisez. Et quand vous formalisez, vous risquez de perdre le contact avec la qualité. La qualité blancheur n'existe pas. Sauf dans mon esprit, où j'ai formalisé le blanc. La liberté, c'est la même chose. Il faut donc spéculer sur l'acte libre, et non pas sur la liberté. Si vous êtes dans une philosophie réaliste, vous ne spéculez pas sur la liberté. Vous spéculez sur l'acte libre. Et c'est très très important de comprendre ça. On dirait beaucoup moins de bêtises sur la liberté si on revenait tout simplement à l'acte libre. Et une fois qu'on revient à l'acte libre, on réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'un acte libre? Et à partir de là, vous pourriez très bien, après, définir la liberté. Mais dès que je suis dans l'acte libre, je vois tout de suite que j'ai l'acte libre numéro 1, l'acte libre numéro 2, l'acte libre numéro 3. Trois modalités de l'acte libre. Et je peux aller un peu plus loin. J'ai d'autres, il y a d'autres actes libres de l'homme. L'acte libre de l'artiste. C'est pas du tout la même chose. Un artiste et un ami sont libres de deux manières. Si vous êtes artiste, un peu, et si vous êtes ami un peu, vous voyez très bien que c'est tout à fait différent la manière dont on est libre si on est artiste et la manière dont on est libre quand on aime. C'est pas du tout la même chose. Tandis que si vous regardez la liberté, vous mettez tout dans le même sac. Alors à ce moment-là, vous savez plus. C'est pour ça que quand Sartre parle de la liberté, on a l'impression de temps en temps il parle de l'artiste. Et d'autres moments, il parle de l'ami. Et il fait un amalgame. C'est ça qu'on appelle l'amalgame. L'amalgame, il se fait au niveau de l'abstrait. L'abstrait confond. Les idéologies aiment les amalgames. Il faut lire n'importe quel article des journaux les plus pieux qui soient pour voir combien l'amalgame est présent. Oui. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez tout le temps, vous passez de l'un à l'autre parce que vous restez dans une idéologie. Alors, en restant dans une idéologie, c'est extraordinaire de voir ce passage de l'un à l'autre. Et vous, au bout d'un certain temps, vous ne voyez plus rien du tout. Alors, si vous êtes intelligent, vous devenez enragé. Parce qu'il n'y a rien qui vous rend plus enragé que de voir ça. Si vous n'êtes pas intelligent, vous vous laissez teindre par la couleur du journal. Et alors, vous, au bout d'un certain temps, vous lisez tous les jours, vous baignez dedans et vous devenez vous-même un être complètement... Je ne dis pas le reste, hein. Vous voyez, parce qu'on est complètement cinglé, on ne comprend rien du tout. Mais au bout d'un certain temps, vous ne comprenez plus rien du tout. La liberté. Mais est-ce que vous avez réfléchi sur ce que c'est que la liberté? Est-ce que vous avez l'expérience de la liberté? Non, généralement d'un acte libre. Alors réfléchissons, qu'est-ce que c'est qu'un acte libre? À partir de là, vous pourrez essayer de comprendre, peu progressivement, la diversité des actes libres, les diverses modalités de l'acte libre. Et vous verrez que l'acte est libre de diverses manières. Et donc la liberté, elle a des modalités différentes. C'est bien évident, elle a des modalités différentes. L'acte libre est divers. Alors, premier acte libre, hein? Premier acte libre que je regarde. L'acte libre de mon intention de vivre. Je suis libre de m'orienter de telle ou telle manière. Hein? Et quand on entre dans la vie religieuse, on a une intention de vie. Une intention de vie contemplative. Et c'est cette vie-là qu'on a choisie. Et si on n'a pas choisi cette vie-là, on s'est trompé, ça ne va pas. Mais toute vie religieuse implique une intention de vie contemplative. Toute vie religieuse. Toute vie chrétienne qu'on a vraiment choisie implique la contemplation. Pourquoi? Parce que la foi implique la contemplation. La foi m'oriente vers la vision béatifique. Alors que des quantités de chrétiens n'aient pas pensé à ça, ça c'est autre chose. Hein. C'est pas le suffrage universel qui fait la vie chrétienne. Non, ce qui fait la vie chrétienne, c'est la révélation. Et la foi est ordonnée directement à la vision béatifique. Si la foi n'est pas ordonnée à la vision béatifique, la foi ne sert à rien. Donc, ce n'est plus une intention de vie. L'intention de la vie chrétienne implique la contemplation. C'est pour ça qu'il y a si peu de chrétiens qui sont heureux. Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que la vie chrétienne implique une intention de vie contemplative. Une intention de vie contemplative, puisque c'est une intention de vie à partir de la foi. Et que la foi est nécessairement contemplative. Puisque la foi m'oriente vers la vision béatifique. Et que si la foi m'oriente vers la vision béatifique, donc elle implique une orientation vers le face-à-face vis-à-vis de Dieu, qui est la réalité de la contemplation. Alors, je rappelle ça, mais c'est élémentaire, ça. Mais on l'oublie qu'il y a une intention de vie qui implique une liberté. Je suis libre d'orienter ma vie vers la vision béatifique. Si je suis croyant, de foi chrétienne, j'oriente ma vie, nécessairement ma vie de chrétien, vers la vision béatifique. Et donc, l'orientation fondamentale de ma vie chrétienne, c'est la contemplation. Cette intention de vie, je dis, elle est libre. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'elle est libre? Ça veut dire que je pourrais très bien ne pas poser cette orientation de vie. Ma foi est un acte libre. Vous allez me dire, ah, vous êtes en théologie, vous êtes en philosophie, vous n'êtes pas en théologie. C'est très vrai. Je prends ça comme première approche. Comme première approche, je dis que ma foi est un acte libre. Et elle commande, la foi est du côté de l'intelligence, elle commande toute cette intention de vie profondément chrétienne. Un acte de vie, un acte libre, la foi. Je choisis d'adhérer à la révélation chrétienne librement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je pourrais très bien ne pas poser cet acte. C'est une liberté donc très fondamentale qui consiste à accepter l'acte de foi ou au contraire à le refuser. Eh bien, je crois que l'intention, c'est une liberté d'un type comme cela. C'est liberté de l'ordre de l'exercice. Je peux poser cet acte ou je peux ne pas le poser. C'est-à-dire, je peux accepter ce premier amour. Au point de départ de l'acte de foi, il y a la pia affectio. Il y a un amour tout à fait premier qui me porte vers celui qui me promet la béatitude. Toute intention de vie présuppose un premier amour. Et j'accepte ce premier amour ou je ne l'accepte pas. Accepter ce premier amour ou ne pas accepter ce premier amour, c'est un acte libre. La liberté se manifeste ou s'exerce en premier lieu de cette manière. Accepter l'amour spirituel que j'ai pour telle personne, ou au contraire le rejeter. Accepter cet amour spirituel à l'égard du Christ, c'est la foi. Refuser cet amour spirituel à l'égard du Christ, c'est tourner le dos au Christ. Donc l'intention de vie représente un premier acte libre qui consiste à accepter un premier amour. Alors, vous voyez que c'est un acte libre, très radical celui-là. Accepter de poser cet acte ou de ne pas le poser. Saint Thomas appellera ça la liberté d'exercice. Et je crois qu'il a raison de dire la liberté d'exercice. Je pose un acte ou je ne le pose pas. Cet acte de liberté, qu'est-ce qu'il présuppose? Il présuppose un amour, puisqu'on accepte un amour ou on refuse un amour. Donc cet acte de liberté naît à l'intérieur d'un amour. Il présuppose un amour et il naît à l'intérieur de l'amour. Il fait qu'on accepte cet amour ou au contraire on le rejette. Mon intelligence est donc présente. Je prends conscience de ce que c'est que cet amour, de l'exigence de cet amour, et je dis, je l'accepte. Ou au contraire, je suis capable de le rejeter. Donc, cet acte de liberté présuppose cet acte libre. Présuppose un amour dans tout son absolu qui porte sur le bien et une intelligence capable de comprendre la qualité de cet amour. Est-ce que cet amour est vraiment pour mon bien? Ou est-ce que cet amour, au contraire, n'est pas pour mon bien? Quand j'accepte la foi, je l'accepte parce que c'est un acte qui est pour mon bien, qui m'oriente vers la vision béatifique, qui m'oriente vers la béatitude. Au contraire, je peux le refuser en disant non. Je suis libre. Chacun d'entre nous sommes libres de poser un acte de foi ou de ne pas le poser. Chacun d'entre nous, nous sommes libres de poser cette intention de vie qui nous oriente vers la contemplation, ou au contraire de le refuser. Nous sommes donc là en face d'un acte tout à fait premier, un acte libre tout à fait premier, qui se fonde sur un amour spirituel et qui implique l'intelligence, qui vient illuminer de l'intérieur cet amour. Tout acte libre va donc présupposer, au moins, tout acte libre, dans ce qu'il a de tout à fait caractéristique, je dirais, cet acte libre, on verra si tout acte libre, c'est ça, cet acte libre présuppose un amour. Il ne pourrait pas naître sans cet amour et il se développe à l'intérieur de l'intelligence. Donc voilà les éléments nécessaires pour que cette intention de vie soit un acte libre. Il présuppose cet amour et à l'intérieur de cet amour, il y a une projection d'intelligence qui me montre que cet amour me lie à mon bien et qui me montre que je suis capable aussi de me détourner de ce bien. C'est le propre de l'intelligence de me montrer que je suis capable d'éviter ce bien. Je peux le rejeter en disant ce bien, c'est beaucoup trop exigeant. Très bien, à certains moments, c'est là où la tentation joue. La tentation joue parce que c'est un amour libre. Si ce n'est pas un amour libre, il n'y aurait pas de tentation. Il n'y aurait pas de tentation vis-à-vis des amours, vis-à-vis d'un amour nécessaire. Impossibilité d'être tenté. Mais vis-à-vis de tout amour libre, vous pouvez être tenté. Vous pouvez très bien dire en renonçant à vos points de chandelle. C'est beaucoup trop exigeant. C'est impossible. Moi, je ne suis pas fait pour ça. C'est impossible. Ça arrive. Même l'intention de vie, on est tenté par rapport à l'intention de vie. On peut considérer cette intention de vie, mais non. Je l'ai acceptée à un moment donné, mais je ne me rendais pas compte. Je suis entré dans la vie religieuse. C'est complètement une bêtise de premier ordre. Ce n'est pas fait du tout pour moi. C'est pas fait du tout pour moi. C'est quelque chose qui est fait pour des chaînes. Et moi, je suis un beau boulot. Un pauvre arbre tremblant, ça c'est pas fait du tout pour ça. Tandis que oui, pour des gens héroïques, la vie religieuse est pour ça, l'intention de vie. À un certain moment, l'imaginaire s'y mêlant, parce que la tentation est toujours dans l'imaginaire, vous voyez, le passage de l'imaginaire. L'imaginaire vient dire, ah mais non, c'est pas fait pour moi. Je fais une comparaison entre ce bien que je cherche, dans mon intention de vie, et moi-même. Toute tentation me ramène à ma subjectivité. Il n'y a pas de tentation objective. C'est très curieux. C'est pour ça que le démon n'aime pas le développement de l'intelligence. Le démon aime qu'on reste dans l'obscurité imaginaire. Parce que là, il fait son miel. Il fait son miel dans l'imaginaire, le démon. C'est le miel, c'est la fondue, c'est un miel particulier, mais c'est là où il fait son miel. C'est parce que dans l'imaginaire, il est chez lui. Tandis que l'intelligence qui montre comment ce bien, c'est mon bien, c'est la seule chose qui me permet d'être parfaitement ce que je dois être. Alors à ce moment-là, l'intention de vie est portée par l'intelligence. Mais je le fais librement. Vous voyez, alors, je vois que dans cet acte libre, il y a un amour spirituel, puis il y a l'intelligence qui montre comment cet amour spirituel, mais oui, c'est vraiment le bien de ma personne. Je vois ça, l'intelligence, mais c'est ce lien, cet ordre entre cet amour spirituel et mon bien. J'atteins mon bien. Donc je fais tout ce que je peux pour atteindre ce bien. Et en faisant tout ce que je peux pour atteindre ce bien, je vois l'ordre qui existe entre ce bien et moi-même. Et c'est ça l'intention de Dieu. L'intention, c'est l'ordre que je vois entre ce bien et moi-même, et maintenant ma propre personne. Mais avant que l'intelligence illumine parfaitement cet amour spirituel pour l'ordonner vers mon bien, l'imaginaire peut s'infiltrer entre deux. Et l'imaginaire me dit, mais non, j'ai vu ça à un moment donné. C'était un moment où il y avait une lumière extraordinaire, une très grande lumière. Mais maintenant, je vois que c'est trop difficile. C'est impossible. Alors, l'ordre, l'intention, qui est un ordre, qui a mobilisé toutes mes forces, disparaît. L'imaginaire commence à s'implanter. Je dis, non, c'est pas fait pour moi. Et l'intention de vie se transforme en velléité. Vous voyez la tentation à l'intérieur. Il y a toujours le passage entre l'amour spirituel et l'intention de vie. Il y a la lutte entre l'intelligence et l'imaginaire. Et dans la mesure même où l'imaginaire est présent, la tentation peut être présente. Et la tentation me fait revenir sur cette décision que j'ai prise de prendre cette intention. Je me suis replié à ce moment-là. Je me replie à ce moment-là, dans la tentation, je me replie sur j'ai cru. J'ai cru que c'était mon bien. Mais non, c'est pas mon bien. C'est peut-être le bien de certains, mais c'est pas mon bien. C'est peut-être le bien de gens qui sont beaucoup plus costauds que moi, mais c'est pas mon bien. Non, non, mon bien, c'est impossible. Moi, chapeau, petit maigrichon, c'est pas fait pour moi, ça. Non, non, je veux être autre chose, je veux autre chose. C'est vraiment l'acte libre qui se situe entre l'amour spirituel et l'intelligence. Et l'intelligence me fait comprendre que cet amour spirituel, je pourrais très bien le rejeter, mais je peux aussi l'accepter. Et dans la mesure où je l'accepte, c'est l'intention qui est, au fond, acceptée librement. Mais mon intelligence montre très bien que, en effet, je pourrais très bien le rejeter. Pourquoi ? Parce que ce bien que je cherche, que mon intention spirituelle atteint, mais il me dépasse de beaucoup. Il est trop difficile pour moi. Et alors, à ce moment-là, l'imaginaire, me repliant sur le sujet, montre toutes les difficultés. Je crois que ça, nous pouvons très bien saisir ça. Nous pouvons saisir cet acte libre, très fondamental, que nous devons refaire tous les jours. Tous les jours, on refait cette intention de vie. Tous les jours, on s'actue. C'est ça s'actuer, pratiquement. C'est s'actuer. Si vous laissez, au contraire, l'imaginaire passer entre deux, alors, la potentialité. Vous n'actuez pas. Et vous laissez l'imaginaire prendre de la place. Et dans la mesure où vous laissez l'imaginaire prendre de la place, vous commencez à hésiter, à perdre du temps. Donc, premier acte de liberté, deuxième acte de liberté, le choix. Ça, c'est l'éducation. Ordinairement, on définit la liberté par le choix, ce qui est très faux. Il y a un choix libre, mais la liberté, ce n'est pas le choix, puisqu'il y a une intention de vie libre. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même caractère de la liberté. La liberté de choix, c'est quoi ? Prenez le fait très simple, la liberté de choix. Vous allez dans un magasin et vous pouvez choisir. Vous êtes libre de choisir. La seule difficulté, c'est qu'il y a des choses plus chères et des choses moins chères. Hein. Alors là, il y a un critère qui fait que vous inclinez vers le très cher si vous pouvez, vers le peu cher si vous ne pouvez pas. Alors Donc, vous ne le dites pas aux voisins, c'est bien évident. Vous prenez d'autres motifs. Mais en réalité, il y a un critère de choix. Vous allez dans une boulangerie, et puis vous choisissez ce que vous aimez bien. Peu importe, ça coûte plus cher ou moins cher, là, c'est ce que vous aimez bien. L'argent, c'est aucune espèce d'importance, vous avez faim. Et vous désirez satisfaire votre goût. Là, à ce moment-là, c'est ça. Et vous vous précipitez immédiatement. Vous êtes libre, mais vous êtes très déterminé. Parce que vous savez très bien ce que vous aimez. Vous voyez ? Alors vous prenez ça directement. Et on vous dire, mais ça coûte beaucoup plus cher. Sans aucune espèce d'importance. Demain, je jeûnerai. Mais aujourd'hui, je prends ça. Allez, c'est toujours demain qu'il y a bon dos dans le choix, là. Alors, le choix, la liberté de choix, nous l'exerçons en face de deux biens sensibles qui sont des moyens. Des moyens pour nous nourrir, des moyens pour nous vêtir, des moyens pour travailler, et ainsi de suite. Le choix. Vous allez travailler Aristote ou Platon. Vous prenez Platon, parce qu'il est tellement plus facile. Aristote, c'est tellement barbare. Hein? C'est tellement rude. Alors, je choisis. Le jour où vous êtes fatigué, vous choisissez Platon. Le jour où vous êtes en pleine ferveur, vous choisissez Aristote. On choisit le moyen le plus difficile en vue de la fin, le plus proche de la fin, les jours où vous êtes euphorique. Les jours où vous n'êtes pas euphorique, les jours où vous êtes fatigué, vous choisissez le moyen le plus proche de vous, le plus lointain de la fin, le moyen le plus facile, celui qui n'exige aucun effort. C'est très curieux de voir la manière dont les gens choisissent. Il faudrait se faire vendeur dans un magasin pour faire un peu de philosophie de la liberté du choix. C'est là, à ce moment-là, on verrait la manière dont les gens choisissent. Surtout quand il s'agit de fruits, quand il s'agit de gâteaux, quand il s'agit de vin. On choisirait tout de suite, on verrait tout de suite la manière dont les gens choisissent. Bon, si c'est vrai, les gens qui sont les vendeurs ratent leur métier parce qu'ils devraient faire de la philosophie du choix. Et là, à ce moment-là, ça deviendrait très intéressant parce qu'ils verraient très bien tout de suite la manière dont les gens choisissent. Il n'y a pas de métier bête. Hein. On peut faire de la philosophie partout. Et alors, il y a un lieu merveilleux de faire la philosophie, quand on voit la manière dont les gens choisissent. Et c'est vrai. Sans vouloir faire ça, on le fait soi-même. Quand vous êtes avec des jeunes, vous voyez la manière dont les gens choisissent. Au moment où ils choisissent les moyens de leur vie, l'intention. Je veux une vie contemplative. Oui. Quel moyen? Il y a différents moyens. Choisir telle ou telle communauté. Telle ou telle communauté, on va choisir. Alors je prends la communauté des petits copains, parce que c'est la même, hein, c'est merveilleux ça. Il a choisi celle-là, c'est donc la bonne, il a bon goût. Alors je choisis celle-là, puis je ne veux pas faire moins que lui. Alors je choisis la même que lui. Vous voyez ? Alors c'est un choix, il faut très bien se comprendre, qui est teinté d'amitié. Teinté d'amitié. C'est la ville de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Hein. Alors on choisit de cette manière, ou on peut choisir avec une indépendance farouche. Il a choisi ça, c'est très ennuyeux. J'aurais voulu choisir quelque chose d'original. Et c'est vrai, on peut choisir quelque chose d'original. Il a choisi, oh, c'est ennuyeux. Mais peut-être qu'il y a quand même moyen de s'en tirer, de retrouver une originalité à l'intérieur.